Bonjour à tous, bienvenue dans la pause produit. Je suis Peter, cofondateur de Yetta, un collectif produit. Chez Yetta, nous aimons les moments authentiques avec une touche de funky. Alors quoi de mieux que de faire une pause pour en avoir ? Je vous propose qu'on partage un moment avec des personnalités du monde du produit qui viendront nous parler de leurs réflexions, de leurs visions, leurs interrogations ou tout autre sujet qui leur tiennent à cœur. Alors on se fait un petit café, on se fait une pause. Bienvenue dans la pause produit. Bonne écoute. Salut Asma.
Salut.
Très content de te recevoir aujourd'hui et de passer un moment avec toi.
Merci.
J'espère que tu vas bien. On s'est pris un petit verre d'eau au cas où si jamais il y a besoin.
Si je parle trop, que la gorge sèche et que j'en puisse plus. Merci.
Ça va être ça. Aujourd'hui, on va parler digital, justement, dans le monde de la presse.
Mmh.
Ce que tu fais à l'Obs, justement, directrice du numérique. Tu vas nous en parler un peu plus après. On va parler d'un sujet qui est lié à ton contexte et ton actualité, qui est justement comment amener une rédaction de journalistes qui a une culture du papier, du magazine.
Très, très forte, oui.
Très forte à développer et adopter un produit digital, puisqu'on va travailler, on travaille. Tu es justement dessus. J'ai toujours on à chaque fois.
C'est très bien. Tu es bienvenue dans l'équipe quand tu veux.
Merci. Et du coup, comment tu as amené cette culture, ce changement au sein de la rédaction, puisque tu as embarqué ces deux mondes. Ce monde du digital et le monde d'une rédaction de journalistes a parlé le même langage autour d'un projet commun qui est justement cette refonte de l'Obs, donc du site de l'Obs.
Exactement.
Avant de démarrer, toujours dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ?
Avec grand plaisir, j'adore parler moi. Déjà, merci pour ton invitation, Peter, je suis ravie d'être là. Donc je m'appelle Asma, pour tous mes amis.
C'est vrai,
je suis heureuse que tu m'appelles comme ça. je vais parler plus précisément, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Je suis née hein, 3 novembre, non, je vais vous épargner tout ça. Mais plutôt, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là où j'en suis en tant que directrice du numérique de l'Obs. Et en fait, tout se joue il y a à peu près 14 ans. Puisque j'ai un certain âge, ce que je ne fais pas. mais en fait, moi, au départ, j'allais pas du tout dans le monde du digital. C'est devenu une passion un petit peu par la suite, mais j'ai fait des études d'information et de communication assez classiques. Mais par contre, je rêvais d'être journaliste. C'est un métier qui m'a toujours passionnée. J'ai été brièvement correspondante locale de presse pour Ouest France. pour un job étudiant, donc c'est extraordinaire et j'adorais écrire.
Ouais.
Mais par contre, j'avais très peur des examens et je n'ai pas tenté, par peur de l'échec, les écoles de journalisme.
Ouais.
Mais grâce à cet échec, quelque part, j'en suis quand même là aujourd'hui parce que je n'ai pas lâché l'affaire malgré tout. Et donc, comme je disais, j'ai fait des études d'information et de communication. Et au départ, j'ai démarré en tant qu'attachée de presse.
Okay.
Attachée de presse, en télé, en médias. Et très rapidement, je me suis quand même rendu compte que ce n'était pas un métier qui me plaisait outre mesure, etc. Et j'ai cherché à faire autre chose. Et là... Je vais chez MSN. Pour ceux qui se souviennent, il y a une époque, et c'est pour ça que je dis que ça a commencé il y a 14 ans, quand c'était encore un grand portail florissant qui faisait des millions de pages vues, qu'on adorait faire aujourd'hui, d'ailleurs sur l'Obs. Et là, c'est grâce à cette appétence pour l'écriture que je suis recrutée en tant que chef de projet éditorial.
Okay.
Et chez MSN, je découvre l'univers du numérique.
Okay.
Et là, c'est révélation. Passion.
Ouais.
Et je me dis,
C'est ça que j'ai envie de faire.
Voilà. Ouais. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est là-dedans que j'ai envie d'être. C'est tout un monde parallèle qui s'ouvre. C'est extraordinaire. En plus de ça, je commence à travailler avec des équipes techniques. Et là, c'est pareil. Je découvre vraiment un champ de possibilités qui est inimaginable. À la fois pour construire des choses, pour amener un grand nombre à nous lire, à consulter nos sites, etc. Et du coup, je fais mes armes chez MSN. Okay. J'y reste à peu près un an et demi. Après, j'ai un peu la bougeotte. Je suis quelqu'un qui a très vite la bougeotte. Au bout de
ou l'envie d'apprendre.
Ouais, exactement.
Ça dépend de comment on le voit.
En fait, la base est là. Ouais. C'est l'envie d'apprendre. C'est à partir du moment où je sens que je me challenge plus, où j'apprends plus énormément, où j'ai un peu fait le tour, j'ai cette envie de trouver un nouveau challenge, un nouveau projet, quelque chose où je vais encore pouvoir me perfectionner et toujours dans cet univers du digital. Donc, en fait, je passe chez Voyager SNCF, où j'ai appris énormément. Quand ça s'appelait Voyager SNCF, avant que ça devienne SNCF. Oui, SNCF. Voilà.
SNCF Connect.
Et donc, pareil, j'y apprends énormément de choses. Et petit à petit, je passe de boîte en boîte et toujours sur dans le monde numérique. Je découvre, en plus de ça, petit à petit aussi, le monde des applications.
Oui.
Et en fait, comme je disais tout à l'heure, le champ des possibles qui s'ouvre, qui est formidable, et il y en a toujours plus.
Ouais.
Mais il y a ce côté informé.
Presse qui ressort.
Voilà, ouais. Presse qui commence à me dire, mais c'est super intéressant, la construction produit. Je découvre dans une boîte qui s'appelait leguide.com, qui avait été racheté par quelques groupes. C'est un comparateur de shopping. Et en fait, là, je découvre tout l'univers du product ownership, de l'agilité. Et là, pareil, ça ouvre encore une boîte supplémentaire. En fait, c'est à partir de mon entrée chez MSN, j'ai eu l'impression un peu d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Donc, il y a des choses très, très bonnes qui en sont sorties, mais il y a aussi des petites choses comme ça qui m'ont toujours appris, mais qui sont un peu moins intéressantes dans le parcours. Et en fait, ça aussi, ça a été hyper crucial, tu vois, d'apprendre le développement itératif, les notions de fail fast, donc la notion d'acceptation de l'échec, de plus être en cycle en V qui ne correspond plus à rien, qui est décorrélé plutôt de la vision autour de l'utilisateur. Donc petit à petit, j'apprends toutes ces briques, mais il me manque toujours ce truc-là
de sens pour qui le faire, en fait.
Voilà, exactement. Et par chance, j'entre dans le groupe Le Monde. Donc là, on arrive en 2018.
Ouais.
Et j'entre au groupe Le Monde pour mon dream job. Donc, il faut savoir que ceci n'est pas une blague, c'est une anecdote réelle. Je suis appelée par un cabinet de recrutement et le recruteur me pose la question, avant même de me dire de quoi il s'agit, quel est mon dream job.
Ouais.
Et là, je dis, je savais que c'était dans les médias, mais j'ai pas. Donc, je prenais un gros risque, d'ailleurs, puisque je dis.
Qui tout double
Je réponds hyper sincèrement et je dis, moi, je rêverais de rejoindre les équipes numériques de Le Monde et de les accompagner de continuer leur transformation digitale et donc d'être product owner au sein de. Et là, éclat de rire au téléphone.
Bingo.
Et ce qui se passe, voilà. Et en fait, il me dit, c'est pour Le Monde. C'est poste de PO pour Le Monde. Donc là, après, je passe les entretiens, tout se passe bien, j'y arrive. Et là, je réaligne un petit peu les
envies, la passion, et ton domaine de compétences, ce que tu sais faire.
Et tout ce que tu dis. Et puis, en plus de ça, au sein de la direction technique, donc en fait, de construire le produit avec également les ingénieurs qu'il y a derrière. Donc pareil, continuer à monter en compétences. compétences aussi sur le domaine technique, parce que j'aurais, j'ai le petit rêve inassouvi de savoir coder. Non, alors, pour l'instant, il est inassouvi. La vie n'est pas finie. Oui. Qui sait, mais voilà. Et de là démarre voilà, une véritable passion de toujours construire à la fois un produit numérique dans un univers où c'est le cœur de métier. Ouais. N'est pas le produit numérique, en fait. Ouais. Le cœur de métier, c'est le journalisme. Le cœur de métier, c'est l'information. Et petit à petit, je grimpe quelques échelons et je me retrouve au sein de en mai 2022 en tant que directrice du numérique du magazine L'Obs. Et avec justement donc l'ambition derrière, l'ambition qu'on m'a donc communiquée et qui était tout à fait partagée, mais de réasseoir le pôle numérique, en fait, de lui redonner un sens.
Ouais.
Et c'est là que ma mission prend...
Commence, en fait.
Voilà, démarre
le sens.
Celle voilà, qui nous amène là, aujourd'hui.
C'est ça.
Et c'est là qu'elle nous amène.
Ok. Bah, pour continuer, justement, une fois que tu arrives, pour le contexte un peu, le contexte de l'arrivée, on a compris le mandat, du coup, effectivement. Mais ouais, le contexte, et puis... on va arriver après sur la vision stratégique, etc. Enfin, on a compris le truc.
Alors, le contexte, c'est qu'on est dans un média, média traditionnel. C'est un hebdomadaire. C'est un hebdomadaire qui plus est, dont c'est pas la valeur première, mais le produit premier, je vais me permettre d'utiliser ce terme, c'est un magazine, et un magazine papier. Avant que j'arrive, il y avait déjà une application, il y avait déjà un site internet, les journalistes publiaient sur le site internet ou sur l'application. Je pense, alors c'est pas qu'il y avait pas de vision stratégique auparavant, mais elle était pas aussi aussi aboutie qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que le canal premier, c'est le print. Le canal premier, c'est le papier.
Donc, la manière de travailler, voilà. Tout ce qui est fait est dédié au papier.
Premier lieu, c'est même la consécration de tout. C'est-à-dire, ils ont envie d'être publiés dans le papier.
Okay.
Et le support numérique, donc le site web, web mobile et l'application ne sont que des canaux de diffusion presque.
Il y a bien sûr un peu des
contenus créés exclusivement, mais c'est pas vu comme vraiment un produit qui a sa valeur propre et qui peut faire rayonner également l'Obs pour un autre lectorat.
Ouais, ok, je comprends. Ouais, en fait, c'est peut-être un peu caricaturé, mais c'est de se dire on va faire un site, on publie sur le site parce que les autres le font, parce qu'on faut le faire et que on s'en fiche un peu, quoi.
Oui. Alors, ils vont pas...
J'ai dit je caricature.
C'est caricaturé parce qu'ils sont, très intéressés. Mais comme il n'y avait pas de stratégie de qui on est, qu'est-ce qu'on raconte sur le numérique, sur notre écosystème digital, bien, effectivement, ça revient et ça revenait un petit peu à ce que tu as dit, sans tirer le train aussi loin. Mais l'idée est là. Donc, en fait, l'application, on a développé une application parce qu'il faut avoir une application. Sauf qu'en fait, elle n'a pas été pensée comme un produit qui a un lectorat particulier.
D'accord.
Quand et c'est d'ailleurs l'un des casse-têtes que j'ai aujourd'hui, dont on parlera un petit peu plus tard peut-être. Mais une application, ça raconte une toute autre histoire qu'un site web, qu'un magazine ou qu'une newsletter, etc. Donc, tout ça, ce ne sont pas uniquement des canaux de diffusion ou des moyens, ce sont des produits à part entière qui doivent raconter et qui doivent transmettre de produit en produit la même valeur de ce qui est celle de l'Obs, mais qui s'adresse à des personnes différentes.
Des
utilisations complètement différentes. Mmh. Donc, c'est là que l'expérience de l'utilisateur, elle est au centre de ce qu'on doit penser, en fait, stratégiquement.
Okay. Ok. Comment tu as fait justement pour construire cette nouvelle vision, j'ai presque envie de dire, autour du digital? Comment tu as réussi à amener cette culture? J'ai presque envie de parler de culture justement autour de ces produits digitaux, enfin ces autres formats, à je ne sais pas si c'est une question de autant d'importance ou pas, mais en tout cas de faire prendre conscience que ce sont des produits.
C'est une excellente question. La base a été facilitée. La base a été facilitée après le chemin un peu moins.
Ça serait tellement facile. Ça serait tellement facile sinon.
Mais pourquoi je dis la base a été facilitée, c'est vraiment parce que déjà je suis arrivée avec à l'Obs et avec c'était aussi pour ces compétences que j'avais, de l'expérience que j'avais eue dans le reste du groupe Le Monde, que j'avais un peu légitimité, tout à fait. J'étais connue, je connaissais les rouages de la maison, je savais, j'avais accompagné d'autres rédactions sur leurs problématiques. C'était assez facile, c'était pas remis en question. Donc, ça, à partir de là, c'est plutôt intéressant. Et aussi, le soutien qu'il y a autour, c'est-à-dire que la directrice générale qui m'avait recrutée, la directrice de la rédaction, qui est une personne centrale en fait dans l'engouement et dans ce projet et dans cette ambition. Je la connaissais aussi parce que j'avais travaillé avec elle sur le site Le Monde. Donc en fait, on savait comment on travaillait les uns les autres et on m'avait au moins dégagé le chemin en disant voilà.
C'est important, on ne pense jamais à le dire, mais je pense que c'est aussi un des éléments clés de réussite, c'est justement la place qui est faite à la personne qui arrive et de savoir déjà un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle comprend, sa manière de bosser. Ça permet de gagner, je pense, pas mal de temps dans les échanges et des facilités aussi après derrière, quoi.
Exactement. Et tu fais bien de le dire, on le dit pas assez. Et là, je me dis que c'est quand même très important. Je suis arrivée dans ce contexte-là. Ouais. Il y avait d'autres choses autour qui n'étaient pas forcément faciles parce que le contexte dans lequel j'arrive à ce moment-là, c'est une équipe de rédaction et l'ancienne équipe numérique, qui était en place, qui se parlait plus vraiment en fait.
Ouais.
Alors que pour toute notre ambition et pour la réussite de ce projet, encore une fois, décorrélé par contre de la réussite business.
Oui,
je ne sais pas aujourd'hui si tout ça va être complètement révolutionner le marché ou le secteur. C'est pas ça mon rôle, mais par contre, réussir à déciloter, à remettre de la communication, de la cohésion, du lien, qu'on soit tous une même équipe. C'était ça le challenge que j'avais et qui me plaisait complètement parce que c'est comme ça que le reste a du sens et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver sur justement le point central, c'est cette co-construction et comment on arrive à amener une équipe numérique qui n'a pas non plus une vision rédactionnelle et une équipe rédactionnelle qui n'a pas cette vision numérique ou je dirais plutôt cette vision produit de voir le produit, comme je disais tout à l'heure, comme un élément central, comment faire les réunir autour de la table et faire en sorte qu'on travaille et qu'on travaille ensemble et que les envies des uns et des autres soient assouvies en gardant derrière l'objectif de l'expérience utilisateur.
L'expérience, c'est ça. Et on en parlait un peu en préparation, mais justement, comment tu as réussi ou comment tu t'y es pris pour amener cette expérience utilisateur à faire prendre conscience. Je sais pas si c'est faire prendre conscience ou pas à une rédaction de l'expérience utilisateur qui doit être faite. En tout cas, sur ce canal. Je pense que c'est ça, surtout. Sur ce canal de diffusion, comme ça, on reste dans les mêmes typologies de mots, sur le canal de diffusion web.
Alors, ça a été un peu compliqué, mais toutefois très intéressant. Vraiment très intéressant, je pense, pour tout le monde. Et moi, très fortement y compris. J'ai appris énormément. Mais je vais d'abord revenir juste sur un point pour comprendre où est-ce qu'on est arrivé. L'un des clés de cette... De cette refonte, c'est de se dire justement, donc en termes de stratégie, c'est très important, on construit un produit en fonction d'une vision stratégique et pas l'inverse. Parce que c'est ce qui avait été fait jusqu'à présent. On avait construit un site web pour avoir un site web et après on essayait de lui calquer une stratégie qui ne correspondait pas. Puisque jusqu'à présent, comme je disais, la stratégie notamment éditoriale, c'est la base. Nos stratégies éditoriales, c'est le cœur, c'est le contenu. Il était print.
Oui.
Print en premier lieu.
Oui.
Donc, en fait, cette méthode ne fonctionne pas. Et donc, ça, je l'ai dit assez vite. Pas de souci, je comprends complètement pourquoi ces produits aujourd'hui ne répondent pas. Quand je parle des produits, je parle donc vraiment des produits numériques, que ce soit l'app, que ce soit le site, que ce soit nos newsletters, et ils ne répondent pas aux différents enjeux qu'on peut avoir. Par contre, on ne touche pas un seul point de la conception, on ne prend pas le crayon avant d'avoir posé qu'est-ce que c'est que l'ops numérique. Qu'est-ce qu'on raconte? Et avant de faire ça, on va même aller encore plus loin. Qui on est? Qu'est-ce qu'on veut dire? Quelles sont nos valeurs? L'Obs, c'est quoi? Donc ça, ça a été des séries d'ateliers où on s'est posé des questions sur nos valeurs, notre ADN. D'abord de la marque et du journal et de ce que ça apportait. Qu'est-ce qu'on faisait de différent de nos concurrents? Du reste de la presse. Et on est arrivé assez naturellement, assez difficilement, mais assez naturellement, à une définition de, eh bien, qu'est-ce qu'on raconte sur notre site.
OK.
Et en fait, c'était de réaligner le print avec... Le numérique, de les réaligner dans un même état d'esprit qu'on ne retrouvait plus du tout sur le site où on ne voyait pas la valeur ni la richesse éditoriale des types de contenus de cette typologie, parce qu'en fait on est dans un ce qui est différent sur le papier, c'est qu'il y a une maquette différente. La maquette, elle va raconter quelque chose de différent sur une enquête, sur les fontes. Et tout ça, qui est très intéressant, justement, à exploiter sur du numérique, eh bien, en fait, on ne s'était pas posé la question. Leur ancienne refonte, ils avaient pris une typo parce qu'elle correspondait à peu près, qu'elle était pas chère ou voire gratuite. Alors qu'avec une fonte, on raconte quelque chose.
Oui, c'est clair.
Surtout quand on est un journal à la base, journal papier.
Non, c'est toute l'expérience utilisateur.
Exactement. C'est, ouais. Et donc, cette cohérence, que toute la finesse des papiers d'angle, des touches d'humour ou des grands engagements qu'avait l'Obs, et qu'on le retrouve au sein du site. Mais avec un plus, avec son pas de côté aussi, avec son expérience, avec l'expérience numérique qui lui est propre. Donc en fait, il y a eu, comme je dis, il y a eu on a démarré ces ateliers en septembre 2022. On a commencé la conception en mai 2023.
Ah oui,
Parce que en fait, c'était pas bien sûr, il y avait pas que l'ADN. Il y avait.
Non, mais c'est venu en fait bousculer toute la vision, la mission même de l'Obs, qu'elle soit sur papier ou en digital en fait.
On a eu des ateliers avec la rédaction
sur ce
qu'on appelle le marketing éditorial.
Ouais.
Donc comment on promeut nos offres? Qu'est-ce qu'on raconte dans nos offres, dans nos formules d'abonnement?
Ouais.
Et ça, c'était jusqu'à présent, en tout cas chez eux, effectivement, chez nous, à l'Obs, c'était, ça ne s'était pas vu, en fait. C'était pour ça que je disais, bah, auparavant, l'équipe numérique travaillait de son côté sur ces questions marketing et était presque déconnectée, et inversement. Et en fait, quand on réunit les différentes équipes,
en fait, presque,
mais on a sorti des idées qui sont venues des journalistes qui sont des pépites, de se dire, ah mais tiens, mais en fait, on n'osait pas demander, mais on peut aller aussi loin. On peut aller aussi loin dans l'humour ou dans le pas de côté, justement, ou même des idées market de campagne. On avait eu l'idée de faire un calendrier de l'Avent, en fait, à la période de Noël, en offrant un papier qui, une enquête, par exemple, qui jusque-là était un contenu réservé aux abonnés.
Ouais.
Et en fait, ça, c'est à la fois de la valeur pour le lecteur, mais ça transforme. Donc, en fait, d'un point de vue business, c'est hyper intéressant. Donc, il y a tout plein de choses comme ça sur lesquelles, quand je dis c'est de septembre à mai, ça a été énormément de questionnements. On s'est posé des questions sur l'arborescence, sur les différentes rubriques que l'Obs avait à cœur de traiter, sur les sujets qu'on voulait vraiment mettre en avant et comment, quelle était la différence entre un papier de news classique où on a juste une information et un papier d'opinion. Donc se poser des questions sur la nature même des contenus et du coup, qu'est-ce qui est important à signifier au lecteur quand il va arriver chez nous?
T'es arrivé avec comme s'il y avait une forme d'œillère, à se dire, bon, on casse ces œillères, un champ des possibles qui est beaucoup plus important, mais qui nécessite déjà de travailler sur sa mission, sur sa vision de ce que l'Obs veut aujourd'hui. Et comment aujourd'hui, le numérique, le digital, peu importe, va venir nous permettre d'aller encore plus loin sur ces aspects-là, toujours en répondant à cette mission qu'on aura définie ensemble.
Tout en dénaturant pas. Et ce que j'avais entendu dans les premiers ateliers et que je suis heureuse de ne plus avoir réentendu par la suite, mais c'est vraiment dans les premiers ateliers, justement sur ces missions, j'avais déjà des quelques réticences, même si c'était « mais nous, on les connaît, nos valeurs, pourquoi on se pose ces questions ?» Et c'était de dire tout simplement, eh bien, comment elles sont traduites? Où est-ce que j'arrive? Je suis tout nouveau sur l'Obs, je suis arrivée par pur hasard. C'était aussi montrer le lectorat, comment il arrive sur le numérique. On ne vient pas de la même manière. Et ça, ça a été, je crois, l'un des pires, peut-être, électrochocs de dire... On a 80% qui sont des volatiles. Les volatiles en numérique, ça veut dire, c'est vraiment, ils viennent une fois, ils sont tombés chez nous, ils sont venus chez nous par hasard.
Ouais.
Et ils reviennent.
Ouais, ils reviennent pas, ouais.
Ils ne savent même pas.
Ouais, ils ont pas. Ouais.
Qu'il y a un magazine derrière. Ils sont venus pour consommer, je mets des guillemets, consommer
une info, un clic sur un lien.
Voilà. Ouais. Parce qu'on est remonté dans un moteur de recherche.
Ouais.
Point.
Ouais.
Et ça. Comment, en très rapidement, on arrive justement à montrer ces valeurs-là. Donc, vous dites que vous les connaissez, encore heureux, j'ai envie de dire.
Ils les incarnent.
Oui, exactement. Ils les connaissent très bien, ils les portent super bien.
C'était de les amener à diffuser, à les faire comprendre et à les poser concrètement.
Et aussi, pareil, dans les premiers ateliers, c'est de la faute du site. Le site ne traduit pas ce que notre journalisme et ce que nous, on fait. Parce que ça ne sert à rien, et je l'ai dit plusieurs fois, ça ne sert à rien de se taper dessus ou de dire c'est de la faute de truc et d'un tel et tout. On fait table rase, on recommence tout à zéro. On va justement le construire. Mmh. Alors, et pourquoi on ne fait pas maintenant? Pourquoi la conception est tarde autant? Pourquoi on se pose autant de questions? Parce que ça, c'est crucial.
Ouais, c'est ça.
Et ce qui s'est passé, qui est assez extraordinaire, que je n'ai pas vu...
Ouais.
Ailleurs, et je commence à en avoir fait quelques refontes.
Ouais.
Déjà dans le groupe Le Monde, je participais à toutes celles qui ont été faites. Le Monde, Télérama, Courrier International. Voilà, j'ai participé à toutes leurs refontes de sites. Là, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on est entré en conception, toutes les questions avaient tellement été répondues que à chaque fois qu'on faisait une presse, c'était quasiment sans faute. Il y avait du détail et tout. Mais en fait, on avait saisi, il y avait tellement de matière. Le designer m'a dit, je suis arrivée comme dans des chaussons. Tout avait été tellement cadré, pensé, réfléchi, questionné et allé au bout de ces questions. Est-ce qu'on est vraiment le Newsmag qui veut traiter de l'écologie, même si on ne vient pas chez nous forcément pour ça? Oui, ça fait partie de nos valeurs. Donc oui, on le met en avant. Oui, on le revendique. Et bien, tout avait été comme ça questionné. Et les journalistes énormément interrogés. Et du coup, voilà, on a commencé.
C'était que c'était très nécessaire de passer par cette étape-là. Et ça vous a fait gagner, du coup, un temps fou. Parce que l'alignement était fait, les priorisations sont plus faciles. Dans les rendus, on avance plus. Mm-hmm. Tout était déjà, les bases étaient posées avant. OK. Là, j'ai envie qu'on aille un peu plus dans l'opérationnel, de me dire comment cette co-construction après s'est faite. Est-ce que du coup tout était hyper facile, enfin fluide, facile? Je pense pas. Enfin, je le sais. je le sais. Mais comment justement ça s'est fait après dans le quotidien, dans cette co-construction je pense déjà, on a toujours cet écueil de langage entre le journaliste, le produit, le digital, etc.
Il y a eu un énorme raté.
Ah, on démarre tout de suite par ça.
Il y a eu un gros raté. En fait, l'objectif principal, il était extrêmement noble. Donc, de co-construction, de construire ce produit tous ensemble. Donc c'était vraiment noble, mais on s'est perdu en cours de route sur quelque chose. C'est que, comme habituellement, les journalistes notamment n'avaient pas forcément voix au chapitre. Là, je vais dire, en mettant encore une fois des guillemets, mais on les a trop mis au centre. Alors bien sûr, tout ce qui est valeur, ADN, et pour qu'ils s'accordent, qu'ils s'accaparent ce produit, il faut qu'ils en fassent partie énormément.
Ouais.
Mais en fait, là où on s'est trompé, c'est qu'on s'est trompé de persona. Et en fait, on a perdu, pas complètement, hein, bien entendu, mais on a quand même un peu perdu de vue que notre persona n'était pas le journaliste. L'utilisateur n'est pas le journaliste. L'utilisateur futur... c'est le lecteur. Et le lecteur n'a rien à voir avec un journaliste.
Pas chercher la même chose, va pas vouloir
exactement
la même chose.
Exactement. Ouais. Donc en fait, notamment dans la conception, sur plein de détails, mais qui peuvent être très structurants, parce que le diable se cache dans les détails, mais on a beaucoup épuré par rapport à ce qu'on faisait, qu'on avait fait auparavant.
Ouais.
Justement, par rapport à notre site actuel. On est parti sur quelque chose où, justement, c'était moins sapin de Noël. On va vers la proposition éditoriale assez straight to the point. Donc, vraiment, on était dans quelque chose de plus élégant, plus épuré.
Simple, direct. Voilà,
plus simple.
Ouais, ouais.
Mais en fait, ça correspondait aux journalistes ou à des personnes qui connaissent extrêmement bien notre promesse éditoriale et et la richesse et ce qu'on propose déjà et qui le savent. Et ces gens-là ne sont pas sur le numérique. Parce que, en fait, pourquoi je dis c'est un énorme raté, c'est que petit à petit, moi j'ai commencé à en être alertée en voyant les maquettes et en me disant l'idée générale j'aime bien,
Oui.
Il y a un truc, mais il y a un truc qu'on rate et malheureusement de pas réussir à le comprendre.
Ouais.
De vraiment d'être jusqu'à être mal à l'aise et à sortir des phrases mais complètement folles avec avec mon équipe de dire il y a un truc qui est pas feng shui, j'ai sorti ça, il y a un truc qui est pas feng shui chez nous.
Je suis sûr du ressenti feng shui, mais comment le transcrire en... c'est quand même difficile. Mais
et donc le designer qui est en train de craquer, en train de dire mais on est 25, on est 25, ça veut dire quoi ton truc, ton histoire de feng shui? Je fais non mais je sais pas, il y a, je suis pas à l'aise et, et pareil et très très intuitif mais très émotionnel. Ça c'est, par contre c'est moi, je suis beaucoup comme ça et rien de rationnel à expliquer. Néanmoins en sachant que j'avais raison.
Enfin, c'est du ressenti. Ouais.
Voilà, j'ai pas. C'est pas.
Ça s'explique pas.
Ouais, voilà.
c'est ça.
J'étais là et on me disait, mais on est 25 à l'avoir vu. Pourquoi les autres ne font pas ça? Et petit à petit, je pointe des trucs en disant, mais en fait, je commence à dire, genre, les lecteurs, nos utilisateurs, ce ne sont pas les journalistes. Eux, ils consultent le site en logué, abonné, avec un compte abonné. Ça, c'est 3% de notre audience. 3% de notre audience, ce n'est pas la majorité. Les 97% qui restent, c'est ce qu'on appelle des anonymes.
Ouais.
Dans ces 97%, il y en a 80% qui viennent qu'une seule fois et qui ne nous connaissent pas. Donc, rien à voir avec le jeu.
Donc, on ne répond pas.
Mais j'arrivais quand même pas à pointer. Et surtout, avec ce truc, je reste quand même... je ne suis pas au point suffisamment prétentieuse pour... du moins, je croyais que c'était ça. Je me disais, je ne suis pas trop prétentieuse pour me dire, j'ai raison. Et en fait, effectivement, en face de moi, il y a 25 personnes qui sont là en train de se dire, c'est super. Mais en fait, c'est autre chose que ça. Ce n'est pas de la prétention, c'est un manque de confiance. Je ne me suis pas fait suffisamment confiance et confiance en l'expertise que je pouvais avoir aussi précédemment. Donc ça, c'est une erreur. J'ai appris ça. Mais aussi de remettre, et c'est là que vient le truc de comment on a réussi à réaligner tout ça, c'est qu'en parallèle, on avait des problèmes d'audience, de SEO, etc. Et en fin d'année 2023, on mandate, je mandate une agence pour nous accompagner. Et l'une des premières choses que je lui demande, c'est de notamment regarder nos maquettes de refonte.
Ouais.
Et là, le verdict tombe.
Je couperai.
Et là, ils disent avec de la data. Des mots simples autres que feng shui.
Ouais. Ils sont venus expliquer le feng shui.
Exactement.
Ils sont venus illustrer c'est quoi feng shui.
C'est quoi ce truc feng shui complètement bizarre qu'elle nous sort. Mais appuyer complètement ça et en disant un truc hyper simple.
Ouais.
On comprend ce que vous avez voulu faire, on comprend l'idée, on encore plus quand on regarde le site d'aujourd'hui, on comprend que vous avez voulu, mais si vous faites ça, vous vous plantez parce que vous n'avez pas les codes du site de presse.
Ouais.
Et en fait, le lecteur premier, Google, pour ne pas le citer, vous reconnaîtra pas.
Ouais.
Et vous reconnaîtra pas en tant que site. Et là, ça fait enfin tilt. Et surtout, il y a enfin de la base solide, encore une fois, autre
que du
ressenti, que de l'émotionnel, que de dire non, ça ne va pas. Alors si, moi, je disais beaucoup, il n'y a pas les codes, il n'y a pas les codes. Et on était, oui, mais c'est bon, on peut les créer, les codes. Non, en fait, remettons-nous aussi à notre place. Même un Le Monde qui est numéro un, il est prudent là-dessus.
Nous lançons pas sur révolutionner le
sur
la
créer
presse
des
digitale.
Usages. Ouais, créer exactement, des usages. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire l'objectif de départ, Et je regrette de ne pas avoir eu les mots aussi simples, entre guillemets, que je l'ai dit aujourd'hui. Mais l'objectif de départ, ce n'est pas révolutionner
la
presse digitale. Pas du tout. Ou de créer un usage, ou de créer un code, ou de lancer une tendance.
Non.
On n'est pas là-dessus.
Non, il faut déjà passer par cette première étape. Déjà, qu'est-ce qu'on a digital? Exactement. Déjà, est-ce qu'on répond déjà, est-ce qu'on y répond
Est-ce que nous, qu'est-ce que l'Obs fait sur le digital? Comment il répond à ses lecteurs digitaux donc, en fait, et c'est ça... Tout ce truc-là, à un moment, cette co-construction, elle a dérapé. Mais c'était nécessaire. Hein.
Ouais.
C'était nécessaire pour se rendre compte aussi qu'il faut que tout s'aligne, il faut répondre à différents enjeux, il faut savoir, il faut bien définir ses personas au départ et les faire valider. Hein, voilà. Et s'appuyer sur de la data quand c'est nécessaire. Parce que là, c'est ce qui a permis...
De faire le déclic, le basculement. Ouais.
Pour moi, principalement, de me dire, c'est ça qui manquait, c'est ce qu'on doit faire. Et réussir à recentrer les choses, à réembarquer.
Ouais.
Et là, il s'avère que c'était en fin d'année.
Oui.
Donc, un peu compliqué de refaire des changements sur des points structurants que rédaction et même équipe produit numérique avaient validé.
Ouais.
Là, s'ensuit une phase de on doit un peu...
De choix, en fait. Ouais,
Et finalement, l'histoire veut que, même si ça n'a pas été très facile, parce qu'on nous a vraiment sorti des phrases du genre que ça y est, on faisait n'importe quoi, on recommençait comme avant, de prendre ses décisions de notre côté. Donc,
ça me fait penser à un truc. Est-ce que le fait d'avoir réussi à avoir autant d'adhésion de l'équipe, elle est pas... je vais essayer de tourner ma phrase un peu mieux, mais le sentiment que ça me donne, c'est le fait d'avoir répondu en fait à leurs besoins en tant que journaliste fait que l'adhésion a été plus facile, que le travail a été plus facile en amont, etc. Et que et du coup, ça allait être un peu ma question, c'est comment aujourd'hui, en leur expliquant que attention, là en fait, on est en train de faire un projet pour vous, mais on répond pas réellement à l'utilisateur, et le but du projet initial était de répondre à l'utilisateur, enfin en tout cas aller chercher de l'impact. Comment c'est pris? Comment ça se... Est-ce que du coup, je pense que tu réponds un peu en ayant du coup les phrases d'avant, vous faites des choses de votre côté, vous ne répondez plus à notre besoin.
Exactement. ça a été un peu dur, parce qu'en plus, ça s'est précipité, et ça a été, là, pour le coup, en presque, entre guillemets, décidé entre directions.
Ouais.
Donc, nous, de notre côté, avec la directrice de la rédaction qui validait tout ça, et la directrice générale, on se voyait toutes les trois, et là, on se dit, là, on prend une mauvaise pente. Bien, ouais. Donc, en fait, on doit changer tout ça, et c'est ce rétro-pédalage sur des éléments structurants pour la rédaction, et encore une fois, même pour l'équipe, mon équipe produit. Même pour l'équipe numérique, ce rétro-pédalage, même eux, sur le moment, il a été difficile.
Oui.
Assez tôt, dans la conception, encore une fois, j'avais identifié ça et je l'ai dit. Mais je ne l'ai pas dit assez bien, encore une fois, pas dit assez bien, pas dit assez fort, pas dit assez, travaillé.
Justifié, avec des éléments...
éléments hyper concrets, mais j'avais dit, mais en fait, c'est ça qui me dérange.
Ouais, oui.
C'est que ça fait trop plaisir et il n'y a pas de retour. C'est qu'on a coché toutes les cases. Si on a coché toutes les cases, on est en décalage.
Ouais.
Et on me disait, mais non, quand même, nous, c'est aussi... Ça, c'était ma propre équipe qui disait, nous, on est aussi des experts sur notre partie. Donc, nous, on regarde aussi le lecteur, etc. Mais je dis, non, sur des points clés, y a quand même un truc. Mais à chaque fois, sans vouloir, pour pas dénaturer cette idée de co-construction,
ouais, je pense
et,
ça,
de,
ouais.
et de responsabilisation des uns et des autres, je me voyais pas taper du poing sur la table.
J'allais dire mettre les pieds dans le plat.
Voilà. Moi, je tape du poing sur la table.
Chacun pas du truc. Tout.
Mettre les pieds sur la table.
Un mélange des deux.
Voilà. Et je me voyais pas faire ça.
Ouais.
Je me disais, non, en fait, t'es la seule que ça dérange. C'est peut-être que
ouais, toi, oui, c'est
t'as
ça,
un problème. Ça a commencé à être pris au sérieux parce qu'en fait, j'étais pas tant que ça la seule à qui ça posait problème.
Ouais.
Notre... Le président du directoire, je sais pas si... Oui, je crois
ouais.
que c'est ça.
Ouais.
Notre vraiment grand ouais, patron ouais. De tout le groupe. En fait, il a vu ses maquettes et lui aussi, très rapidement, il a... Il a dit, oh là, là il y a un risque, sur de la recirculation, retrouver un peu les usages. Mais voilà, c'était très succinct. Donc là, on s'est dit, on doit y répondre. Donc on est quelques mois auparavant. Mais comme, encore une fois, comme on n'a pas de data, quand on n'a pas de truc, c'est quand même,
c'est
tout le monde essaye de passer ça sous le tapis. Okay. Arrive le moment de la data, et là, on doit
prendre
une décision, on la prend, on dit non, on va remettre du code et des usages dans tout ça, de ce qui se fait, et
ouais.
ce n'est pas notre mission de réinventer la roue.
Oui, bien sûr.
C'est pas bien accueilli au sein des différentes équipes, il y a eu des mots un peu difficiles entre les uns et les autres, et... Là, moi, mon attitude change un peu en disant, je sais pas, je prends conscience que ça m'a échappé, que encore une fois, que l'ambition était noble, mais qu'on doit quand même pas perdre de vue qu'il y a du business derrière. Quand je dis business, c'est pas un gros mot, c'est que malgré tout,
c'est des enjeux.
Voilà, enfin, des enjeux hyper forts,
oui.
et que si on n'y répond pas, on doit vraiment pas les perdre de vue.
Oui.
Et la directrice de la rédaction s'empare aussi de cette décision. Ça, okay. c'était hyper, hyper important. Elle dit, elle explique. Elle prend sa responsabilité comme elle le fait tout le temps, hein, mais de vraiment dire voilà, c'est une décision, on peut pas se mettre en risque là-dessus.
Ouais, c'est sûr.
Donc, et puis pareil, hein, de dire c'est pas à nous de révolutionner le secteur et on fait déjà. Beaucoup de pas de côté dans cette cette refonte, donc voilà,
ouais.
on va, et surtout ne perdons pas l'essentiel aussi, c'est que ça a marché jusqu'à présent, le cœur du projet pour montrer, comme on disait, la richesse éditoriale,
ouais.
et toutes les valeurs et les bonnes valeurs de l'OP sur le numérique, c'est quand même resté, donc continuons de nous faire confiance, parce qu'il y a eu un petit
moment. Oui, c'est normal, un quark de doute.
Mais il y a, eu un petit moment où ça s'est un peu fracturé. Et on y travaille de notre côté. Moi aussi, je dois remettre de la confiance auprès de mon équipe qui, à quelques moments, était là. Tu fais plus confiance à notre expertise. Je te dis que c'est ça. Je m'implique davantage dans la conception.
Oui.
En disant, pas toujours pareil, hein, je reste dans mes concepts, j'ai dû sortir, ça me crée un vide existentiel comme okay. ça. Tu sais. Non mais arrête, s'il te plaît, j'ai besoin de comprendre.
Ça veut dire
qu'est-ce
quoi?
Que tu veux que je fasse avec ça? Je fais là, ça flotte, ça me donne une impression de flotter.
Très bien.
C'est bien ou mal?
Qu'est-ce que ça veut dire, flotter? Feng Shui, on sait.
Ouais.
Flotter, on ne sait pas encore.
et j'étais là, et donc en fait, j'avais notamment les designers qui étaient en train de se dire, est-ce que tu peux traduire avec des vrais mots ce que
ouais,
tu
fais quelque chose.
Mais, et donc, j'avais mon PM qui, lui, des fois, arrivait... Elle veut dire.
Voilà, un traducteur de pour savoir ce que c'est.
Traducteur Feng Shui.
Voilà, c'est ça.
Et en fait, ce qui a été génial et ce que ça nous a appris, c'est que là, en fait, c'est pareil. C'est que sur cette conception,
ouais.
de réaffiner, de réaligner, de qui était vraiment dans des enjeux très très forts. Ouais. En fait, on a vraiment nous aussi retravaillé ensemble.
Okay.
On s'est dit, mais en fait, nous aussi, on s'est un peu perdu. Cette idée, il y a le designer qui a sorti à un moment, et il m'a dit, en fait, on faisait un point tous les deux, et il me dit, mais en fait, c'est super, mais je n'arrive plus à voir la limite entre l'autonomie, que j'apprécie énormément, et le je suis pas du tout. Là, pour le coup, j'ai plus de cadre. Et en fait, c'était pareil. C'est tout comme dans la co-construction, jusqu'où va la limite. Là, c'est entre responsabilisation, qui était aussi quelque chose que je voulais qu'on mette en place collectivement, qu'on assume collectivement. Mmh. Bah, là aussi, il y avait quelque chose qui s'était joué entre bah, t'es hyper responsable, t'es hyper autonome, mais en fait, tu l'es trop et tu perds le cap de vue parce que en fait, je t'ai laissé te débrouiller tout seul.
Oui, c'est ça.
Et c'est pas...
Oui, en fait, c'est les limites du terrain de jeu. Il y a un terrain de jeu, mais quelles limites je mets? Et les limites, on les met le produit, la vision de l'utilisateur.
Exactement. Ouais. Et poser le cap. Ouais. Et moi, je m'étais perdue dans tout ça aussi.
Oui.
Donc, c'est pour ça que je dis que ça m'a appris énormément.
Ouais.
Parce que je m'étais perdue dans tout ça de dire j'ai le droit, et c'est même sain, de poser ce cadre en disant aussi, voici nos contraintes.
Oui.
Voici nos contraintes budgétaires, voici nos contraintes, on le dit assez naturellement, donc voilà, allons pour tout, je te pose le cadre, et une fois que ce cadre est bien verrouillé, amuse-toi
comme
éclate-toi,
tu veux. Ouais, je suis d'accord.
Et voilà, et après tout sera de l'ordre de c'est des goûts, effectivement, mais le cadre est bien posé. Et tout ça pour quand même pour conclure sur cette histoire de raté qui, ouais, au final arrive,
ouais,
à faire que les planètes se réalignent.
Ouais.
Et que on est encore plus content.
Ouais, de ce qui, d'aujourd'hui, ouais, de ce qui de, va sortir, de du ce coup, qui va sortir, fonction de quand le podcast sera ça, voilà, de ce qui va
sortir. De ce qui va sortir, mais collectivement.
Oui.
Vraiment collectivement. Et en fait, avoir s'être servi, avoir remis le lecteur, son expérience utilisateur, les enjeux SEO, les enjeux business, les enjeux stratégiques, les avoir remis, c'est comme quoi ça ne peut pas... vu que ça avait été quand même cadré au départ, ça ne dénaturera pas le projet.
C'est sûr.
Et quand la semaine dernière, je présente donc avec la directrice de la rédaction, mais à l'un des rédacteurs, oui, en chef qui l'avait, oui, qui avait été le plus impliqué avec nous, oui, et qui l'avait, oui, un peu mal vécu,
oui,
lui, et qu'il voit le résultat et qu'il dit « Oh, c'est canon !»
Oh, super.
Tout en ayant tous ces codes de sites de presse. Et encore une fois, en ne révolutionnant pas le secteur. Hein,
oui, oui.
Mais c'est pas notre mission non plus. Donc voilà. Et de pareil, de demander à l'équipe numérique de dire, honnêtement,
ouais,
entre la première version,
ouais,
et celle d'aujourd'hui,
ouais,
eh bien, pareil. Au départ, ils n'y croyaient pas. Et puis en fait, là, ils disent, non, c'est vraiment mieux. On raconte vraiment quelque chose.
Ouais, c'est top.
Donc, ouais,
non, c'est
l'histoire.
Ouais, non, mais l'histoire est belle.
Ouais.
L'histoire est belle. Hâte de voir cette sortie justement derrière l'Obs. Est-ce que pour aller un petit peu, je sais pas si pour plus loin ou pas, mais je me dis, est-ce que du coup dans cette notion qui était un peu la problématique d'adhésion, de rassembler tout le monde. Ouais, vous y avez répondu, une satisfaction collective entre toutes les équipes. Mais est-ce que tu trouves le côté, le petit plus de... dire en plus, ils ont vraiment adopté l'outil parce qu'ils nous ont proposé quelque chose. Je sais pas, moi, j'allais dire un tunnel différent de d'achat ou une notion business ou enfin tu vois un succès qui te fait dire oh, putain en plus
alors
bah, finalement le papier je dis pas ils l'ont oublié mais
non
mais tu vois
il y a plusieurs choses bon, ouais. c'est hyper intéressant c'est que il y a plusieurs choses c'est quand je disais qu'on s'était posé des questions et je disais tout à l'heure on a été très très loin, c'est-à-dire que les questions en transparence, je crois que c'est dans l'ADN de Yeta aussi, donc tu vas,
c'est vrai, c'est vrai.
Mais d'aller jusqu'à se questionner, donc à la fois se questionner sur c'est pas nous qui donnions au côté équipe numérique oui, la réponse de dire si oui ou non vous publiez sur telle ou telle chose,
ouais, ouais,
ça, jamais de la vie, c'est pas comme ça, mais de se questionner, de leur poser les questions de est-ce que l'Obs intervient sur tel type de problématique et oser affirmer que oui ou que non.
Oui, oui.
Donc ça, c'était des questions qui habituellement n'étaient pas posées en ensemble. Donc, dans ce projet, on se les est posés, mais on s'est aussi également posé. Donc, on a invité la rédaction à se poser des questions sur des enjeux qui, auparavant, étaient purement, purement business. Donc, liés à l'abonnement, liés à la publicité, oui. etc. Et donc, à se poser les questions avec nous. Par être responsable de la réponse,
bien sûr.
Parce que c'est des entités quand même assez séparées, mais à se poser des questions. Et donc, une question qui était hyper importante pour moi, c'était la question des abonnés. Donc, l'Obs, c'est un magazine qui a une offre qu'on appelle sur le numérique freemium, donc avec des papiers payants et des papiers réservés aux abonnés. Et les abonnés, c'est leurs abonnés, mais pas forcément dans ce qu'on leur propose. Enfin, c'est leurs abonnés parce qu'ils lisent leurs papiers, mais c'est pareil, il y a quand même...
C'est une sorte de suivi que d'abonnés.
C'est les leurs. Et c'est les plus fidèles à la marque, justement. Mais sur la notion de stratégie d'abonnement, c'est là que c'est plus clair quand je le dis comme ça. Sur la notion de stratégie d'abonnement, c'est pas leur problème, c'est pas de leur ressort, etc. Là où j'ai voulu aller, quand même, de dire si, en fait, ce qu'on raconte à nos abonnés pour les faire s'abonner sur le site. C'est de notre ressort à tous.
Oui.
C'est pas que à nous de définir une politique de prix.
Oui.
Encore, et c'est pas que à nous de définir ou de juste proposer d'attendre une validation. C'est de la même manière, aidez-nous à poser un cadre. Aidez-nous à nous dire une tonalité. Ce qu'on peut ou pas ne pas dire. Je donne un exemple parce que ça sera très parlant, mais c'est pour les types de slogans ou des choses comme ça. Beaucoup dans la presse, notamment en France, vont écrire sur ce qu'on appelle donc les paywalls, c'est les murs qui bloquent le contenu d'un papier, soutenez la rédaction, etc. Et ça, en fait, moi, j'avais déjà entendu que c'était quelque chose qui sur lequel ils adhéraient pas. Les gens sont pas là forcément pour nous soutenir, on n'est pas en train de faire la quête. Et quand bien même on pourrait, mais il faut que ce soit clair. Là, il y a eu un travail, tout travail mérite salaire, il y a eu un travail de grande recherche, etc. Voilà pourquoi on doit faire payer les abonnements. Donc c'est par exemple, c'est pas forcément ça qui a été pris,
mais bien sûr. Mais c'était une réflexion, en tout cas,
Et c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on raconte avant ces murs d'achat? Qu'est-ce qu'on dit? Juste s'abonner?
En fait, c'est quelle promesse on veut donner à...
Exactement. Et donc, c'est tout un langage, mais avec un langage de l'abonnement ou le langage stratégique. Enfin, de comment on parle à notre lectorat.
Quelle histoire on raconte,
Exactement. Jusque-là. Et une question qui est très importante, par exemple, qui n'est pas trop répondue un peu partout, et c'est d'ailleurs c'est une question importante, parce que c'est pour donner l'exemple, mais auquel on n'a pas répondu nous-mêmes, on l'a contourné. Mais c'est l'Obs a dans ses valeurs de se poser aussi des questions sur les questions d'inclusion, sur questions de genre, c'est un média assez féministe, etc. Et en fait, l'inclusion dans notre langage abonné. L'écriture inclusive, ou pas. Ça, c'est pas moi qui peux prendre la décision. Même si j'ai un poste de direction, je peux pas prendre décision de dire si on est inclusif ou pas. Encore plus quand au gouvernement, on t'a dit non, il n'y aura pas d'écriture inclusive. Tu vois Je vais pas contre ce que nous dit notre président. et en fait... Ça, c'est une question hyper cruciale qu'on doit se poser collectivement. Donc, c'était pour ça, je disais, dans la stratégie, on va jusqu'à se poser toutes les questions qui sont de l'ordre de l'édito, de l'ordre du produit, et collectivement, ouais, et en transparence, ouais. Et sans avoir peur de la réponse. Et voilà. Jusqu'à présent, moi, de tout ce projet, je vais être un peu violente dans mon propos, mais j'exagère toujours. C'est dans mes gènes, je ne peux pas m'empêcher. Presque, j'y croyais pas.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, j'y croyais pas? C'est, j'adore cette phrase, c'est « il faut que tout change pour que rien ne change ». C'est qu'on avait refait toute la déco.
Ouais.
Qu'elle était feng shui, certes.
Ouais, ouais.
Mais on avait malgré tout refait un site.
Oui.
Donc, pour moi, ça n'allait pas révolutionner les choses.
Ouais, ça venait pas répondre au cœur du problème, le exactement. Vrai sujet. Ouais.
C'est exactement ça. Ça répondait... Il y avait encore un truc qui répondait... Qui n'était pas game changer.
Ouais, ouais.
Et depuis peu, donc ça fait le lien avec ce que je racontais avant de se poser toutes questions. Ouais. Depuis peu, on a enfin finalisé la dernière et ultime brique qui était mon rêve absolu. C'était de se poser les questions 360. C'est vraiment, donc, comme je l'ai raconté là depuis un moment maintenant, mais de se poser les questions sur tout et pas uniquement des questions produits sur comment lire un papier sur un site.
Oui,
et
oui,
avoir
oui.
les bonnes fonctionnalités.
Oui.
C'est qu'est-ce qu'on raconte autour de tout ça.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait également pour redorer un peu notre business à nous.
Oui, oui.
Regagner du lectorat,
oui.
gagner en notoriété
oui. Oui.
et répondre aux problématiques des lecteurs du lectorat hétérogène. Et donc, c'est pareil, on avait eu des ateliers. Donc là, ils sont arrivés sur le tard. Toujours avec la rédaction pour se poser ces questions-là
ouais,
dont je parlais, je parlais juste avant, mais aussi à travailler avec la seconde designer sur cette problématique, la responsable des abonnements numériques, et moi et le reste de mon équipe, et là se casser la tête justement pour se dire prenons le problème à sa racine. Qui sont nos lecteurs, aller vraiment plus loin, comment ils arrivent chez nous, quand ils arrivent par un moteur de recherche, quand ils arrivent par des réseaux sociaux, quand ils arrivent, toute l'expérience dans toute sa diversité.
Oui.
Quels sont les messages qu'on va leur transmettre, leur faire proposer,
ouais,
justement. Donc, donc, on a réfléchi tout ça, on s'est nourri encore une fois, de ce que nous disaient les journalistes, du reste de l'équipe numérique, de veille, d'énormément de veille active sur ce qui est fait à l'international, ce qui est fait en France, ce que font nos concurrents, ce que font des sites qui n'ont même rien à voir, mais qui ont eux aussi des utilisateurs, comme tout le monde. Et on a sorti une stratégie pour répondre
à tous ces points, ouais.
qui étaient les vrais points, nos vrais points de douleur.
Ouais, ouais, ouais.
C'est ce lien. Nous, on sait qui est l'Obs.
Oui, oui.
Mais comment on fait
ouais, comment on le fait savoir, le connaître, le machin.
Exactement. Et comment on garde
oui.
nos abonnés, comment on les fidélise, comment on continue de leur parler. Je donne un exemple, encore une fois, c'est que quand s'abonner, c'était la dernière... Jusque-là, s'abonner était la dernière étape. C'est pas la dernière étape, c'est là que tout commence.
Oui, oui.
C'est comment on les garde. Comment on réduit donc ce qu'on appelle le churn, donc le taux d'attrition, pour qu'ils ne se désabonnent pas tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, tout est avec un abonnement.
Ouais.
Et très honnêtement, entre le ménager français, entre l'inflation, etc., entre un abonnement à un média, alors qu'on peut avoir les informations assez gratuitement sur le reste, sur d'autres sites, et son abonnement à Netflix, pardon, mais même moi,
Le choix est fait.
Et ce sera l'Obs, bien entendu.
Oui, de toute façon, je ne voyais pas d'autre choix. je voyais pas d'autre choix.
et donc en fait, on s'est posé les questions, on a enlevé toutes les œillères, tu disais les œillères, toutes les barrières. On répondra pas à tout tout de suite, mais posons-nous les questions, les bonnes questions. Toutes les questions sont de bonnes questions et priorisons et voyons ce qui répond à.
Éco-construisons ensemble. Ouais,
exactement. Et notre designer a travaillé extraordinaire. Elle a fait un travail extraordinaire pendant les vacances de Noël, pendant que nous, on se gavait
de repas et autres.
Exactement. De
et qu'on se disait plus
compagnie.
Jamais, qu'on se disait plus voilà. Jamais, mais qu'on refera l'année prochaine.
Bien entendu. et en fait, à la rentrée, la semaine dernière plutôt, on voit le résultat de son travail qui traduisait toute cette réflexion. Et j'ai hâte que tout le monde le voit, mais ouais. J'avais les larmes aux yeux.
Ouais.
Parce que c'est enfin la boucle est bouclée.
Ouais.
Et là, je disais tout à l'heure, game changer, là je me suis dit, on va pas encore une fois pas révolutionner la presse.
Ouais, ouais.
Je vais pas répondre aux problématiques cookies qui vont faire en sorte que les revenus publicitaires vont chuter de manière drastique. Ça, j'y répondrai pas. Mais par contre, quand le lecteur vient chez nous, on a répondu à toutes les questions auxquelles il était possible de répondre. Mmh. On s'est posé les bonnes questions. On a fait quelque chose qui est en lien avec nos valeurs. Là, c'est game changer. Là, il y a moyen de bouger un peu les lignes.
Mmh.
Et surtout, même si ça ne prend pas parce que ça nous dépasse,
oui.
C'est réussi.
Non, mais c'est réussi déjà, ne serait-ce que d'avoir réussi à rassembler avec les écueils dont tu nous as parlé aussi. Enfin, c'est je pense que je comprends ce sentiment de waouh, c'est beau quoi.
Mm.
Donc là, on parle de manière empathique et je m'en fous.
l'empathie.
Mais c'est bien l'empathie, je m'en fous. Mais effectivement, ouais, c'est cette notion-là. Et du coup, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir la sortie, j'ai hâte de creuser justement ça. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec
moi.
Merci
à toi d'avoir bien écouté, d'avoir aidé.
C'était hyper inspirant. Moi, je suis passé un super moment, plein de transparence, de simplicité. Oui. Enfin, c'est ce que j'aime. Donc, merci beaucoup, Asma.
J'ai hâte que vous voyez. Surtout, abonnez-vous à l'app, s'il vous plaît.
Voilà, c'est ce qu'on dit. Et pas Netflix.
Exactement. Netflix, c'est surfait.
Voilà, c'est surfait. L'app, c'est bien.
Voilà. Oser le changement.
Oser le changement, c'est parti.
Le pas de côté.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci.